Joseph Massé-Scarron, vous publiez votre dernier roman en date, Ticket d'entrée chez Grasset. Alors c'est un livre intitulé roman, mais est-ce qu'il n'y a pas une grande part d'autobiographie sous forme de règlement de compte d'une certaine manière ?
Alors il y a toujours, lorsqu'un romancier écrit, par définition, il y a toujours une part de lui-même qui rentre dans le personnage principal ou dans le narrateur, ou parfois même dans tous les personnages. Et d'ailleurs, même dans ce roman, même si je peux être assez identifié au personnage principal, il y a même un peu de moi dans les autres personnages. Maintenant, bien sûr, ce roman décrit une mésaventure qui m'est arrivée, une mésaventure professionnelle. Mais la mésaventure qui est arrivée à Joseph Massé-Scarron, finalement, est peu intéressante. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, à partir de cette mésaventure, essayer de tracer des perspectives, essayer de créer des archétypes, ce que j'ai essayé de faire. Alors, j'ai choisi le roman pourquoi ? Parce que, en fait, je pense que si j'avais écrit quelque chose dans l'immédiat, j'aurais fait à ce moment-là un pamphlet. Ça aurait gagné peut-être en force, mais ça aurait perdu en qualité littéraire et même en qualité de démonstration. Alors que là, j'ai pris un certain temps, donc j'ai aucun esprit de revanche lorsque j'écris ce roman. J'avais plutôt un amusement, un grand amusement, et j'espère que ça s'est ressenti.
Oui, parce que l'esprit de revanche, si tant est qu'il existe, est modéré largement par un humour terrible que vous avez.
C'est ce que j'ai essayé de faire. Alors, évidemment, le narrateur qui est le héros, plutôt le anti-héros, on va peut-être en parler.
Oui. Son nom Benjamin Strada est journaliste. Voilà. Enfin, citons un peu. On est journaliste dans un journal qui s'appelle Le Gaulois. Et ce journaliste doit faire des choix par rapport à l'évolution du journal.
Voilà, par rapport à une nomination qui lui tombe à un moment donné, qu'il a un peu cherché aussi. Et donc, il se retrouve bombardé, directeur de la rédaction du Gaulois Magazine, de même que moi, j'ai été nommé du jour au lendemain directeur de la rédaction du Figaro Magazine. L'action se passe entre 2005 et 2007, c'est important de le souligner, c'est-à-dire au moment de ce qu'un film appelle la conquête de Nicolas Sarkozy, la conquête du pouvoir de Nicolas Sarkozy.
Le roman se termine d'ailleurs le jour où on apprend que c'est Nicolas Sarkozy qui est élu. Hein.
Absolument, dans une scène finale. Ouais. Maintenant, il ne s'agit pas exactement d'autofiction, parce que encore une fois, si j'avais raconté ma propre mésaventure, je pense que ça n'intéresse personne. J'y mêle une part de moi-même, une grande part de moi-même et de mon expérience et de ce que j'ai pu observer en règle générale, mais aussi j'y mêle des mésaventures qui sont arrivées à d'autres journalistes. C'est-à-dire que plus que de l'autofiction, comme ce livre est un peu taquin, hein, c'est un peu comme un coup de gant de crin qui fait circuler le sang, je dirais plutôt que c'est de l'autofriction. Voilà ce qui me paraîtrait le
terme. C'est une très belle formule, effectivement, parce que ça dit beaucoup. Ça dit le côté grinçant à certains moments, ça dit le côté vérité qui se dit, parce qu'on découvre finalement le monde de la presse, le monde de l'influence, le monde de l'influence du monde des affaires sur le monde de la presse. Alors c'est une des manières d'entrer, comme avec une lampe de poche, je dirais Nancy Houston, je crois. Absolument. Le romancier apporte une lampe de poche dans un monde des ténèbres.
Oui, et c'est enfin, moi, j'aime beaucoup Nancy Houston. C'est beaucoup d'honneur que vous la citiez, puis en plus que j'ai eu la chance de l'interviewer, de la rencontrer. Et je crois que la formule est tout à fait exacte. Oui, c'est apporter une lampe de poche dans un monde de ténèbres. On écrit toujours les livres, enfin je pense, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, on écrit toujours les livres que l'on voudrait pouvoir lire. Voilà. Et moi, ce qui me manquait, c'est un livre qui une lampe de poche pour pouvoir comprendre en fait cette plongée, ce qui pour moi est une sorte de plongée dans les ténèbres, qui correspond à l'élection de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que tout d'un coup, la France qui s'amusait, parce que les Français aiment bien se gausser hein, des autres, hein, mais on manque singulièrement d'autodérision par rapport à eux-mêmes, les Français aiment bien, se sont gaussés pendant très longtemps de l'Italie et des malheurs qu'il arrivait aux Italiens et de Berlusconi. Et puis un jour, en fait, ils ont élu eux aussi, non pas un clown, mais un joueur de bonneteau. Et ce qui m'intéressait de savoir, c'est pourquoi, paradoxalement, aucun livre de fiction ne traitait de cet événement à la fois grotesque et extraordinaire. Alors qu'en Angleterre, vous avez des romanciers, je ne me comparais pas à eux, mais des grands romanciers comme par exemple Jonathan Coe qui a parlé de Margaret Thatcher ou de Blair. Vous avez même en Italie des textes d'Antonio Tabucchi sur l'ère Berlusconi, etc. Aux États-Unis sur George Bush Jr. Et en France, rien. Pourquoi ce rien ? Alors que quand même, ce qui se passe en France est absolument important. C'est-à-dire, il y a quand même un pouvoir qui passe son temps à cliver, à stigmatiser une partie de la population, à dresser les Français contre les uns contre les autres. Donc, je voulais comprendre. Donc, j'ai choisi l'humour, en effet, une certaine taquinerie, on va dire. Voilà, un coup de gant de crin pour faire ce qu'il sent. Je reprends la formule. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'on écrit finalement que les livres qu'on voudrait lire, voilà. Et c'est ce qui me manquait. Je disais, mais pourquoi ? Et alors, c'est vrai que les Français manquent d'autocritique par rapport à eux-mêmes. Le narrateur lui-même est autocritique par rapport à lui-même. C'est pour ça que c'est drôle. C'est pour ça aussi que les Français n'arrivent jamais à faire des livres drôles. C'est parce que c'est le manque d'autocritique par rapport. Hein. Je dis souvent, alors je ne sais pas parce que je suis ici, je le dis souvent, les Français sont des Italiens tristes et des Belges sans humour. Voilà, je crois que c'est ce qui les caractérise.
Oui, non, c'est vrai. Il y a aussi cet humour, vous avez cité Jonathan Coe, il y a aussi cet humour à l'anglaise aussi. Hein, cette espèce d'humour pince-sans rire, ouais. que l'on voit à travers tout le personnage qui est le narrateur, qui est Benjamin Strada, dans toutes les rencontres qu'il fait, parce que on peut dire que ticket d'entrée, c'est le ticket qu'il ne parvient pas à obtenir où qu'il soit. Il se fait larguer au début du roman par son compagnon, enfin son amant, il est gay, il se fait larguer par son amant, et puis on a l'impression que par la suite, il se fait larguer partout où qu'il aille, et il essaye désespérément de comprendre avec un certain Pinson Blanchard, qui est un portrait de psychologue absolument hilarant, qui est vraiment du Jonathan Coe.
Oui, c'est en effet ça. C'est-à-dire que il croit en montrant patte blanche, si je puis dire, c'est-à-dire il croit qu'en adoptant toutes les identités, tous les masques que lui propose la société, il va arriver à se faire accepter au grand banquet social. Et en fait, il se rendra compte à la fin. Alors, certains lecteurs ont estimé que c'était un peu tard, mais je ne pouvais pas tricher là-dessus. Ils se rendent compte que, finalement, tout ça était un leurre et que le masque que l'on se colle, un jour ou l'autre, il s'attache au visage et à peu près, on ne peut plus l'enlever. C'est le cas de, je crois, la majorité, malheureusement, de nos contemporains qui se croient extrêmement haut placés, qui croient maîtriser leur destin alors qu'ils ne maîtrisent rien.
Pourtant, à chacune de ces rencontres, il aurait pu se rendre compte, parce qu'il est quand même journaliste au départ. Donc quand il rencontre Sabot, qui est ce gros industriel qui rachète un peu l'aventure qui vous est arrivée, c'était au Figaro avec Dassault, donc là il s'appelle Sabot et non pas Dassault, la rencontre que vous racontez entre le narrateur Benjamin Strada et Sabot, il est confronté à la réalité de ce qu'il vit et qu'il semble ne pas vouloir voir.
Oui, mais il ne le voit pas. Il ne le voit pas comme la plupart d'entre nous. Je veux dire, comme moi aussi, parfois. C'est-à-dire, par lâcheté, par petites lâchetés successives. Et puis finalement, ces petites lâchetés successives, ça conduit à des compromissions. Et ces compromissions, ça conduit, etc., etc., à des mensonges. Et, voilà, et ça conduit, bien sûr, à la catastrophe. Donc, il fait semblant de ne pas le voir. Mais voilà, j'ai eu moi-même, d'ailleurs, ces interrogations. Vous savez, quand vous trouvez face à quelqu'un qui est milliardaire et qui est entouré d'une sorte de révérence par tous ses collaborateurs, par tout le monde. Vous-même, vous évoluez dans un monde où tout le monde est plié, parce que c'est pas simplement les illusions perdues, ce livre, c'est aussi Splendeur et misère des courtisans.
Donc, il fait penser hein, quand même aux illusions perdues. Oui, c'était la référence que j'allais citer après. Donc là, il y a une transmission de pensée.
Voilà. Et c'est un monde de courtisans, c'est un monde de court, voilà. Et finalement, les courtisans lui disent oui, mais tu dois l'écouter. Enfin, c'est quand même prend ses conseils comme ceux d'un bon père de famille, d'un grand-père. Voilà, c'est un grand-père un peu difficile, mais c'est un grand-père. Moi-même, c'est ce qu'on m'a dit s'agissant de Serge Dassault, ses plus proches collaborateurs. Oui, mais quand même, tu pourrais bien lui montrer ses éditos, tes éditos à corriger. Tu pourrais peut-être nous les envoyer. Finalement, tu sais, c'est comme si tu les envoyais à ton grand-père. père. Voilà.
Est-ce que ce n'est pas un peu ce livre un pavé dans la mare? Quelles ont été les réactions de ceux qui ont dû se reconnaître assez facilement dans ce roman à clé où les clés sont indiquent assez bien les portes qu'elles ouvrent?
Oui, c'est bien sûr que c'est un roman à clé, mais il n'est pas nécessaire d'avoir un trousseau hein, pour ouvrir les portes. Certains ont très mal réagi. Voilà, très mal réagi. Voilà. Certains ont même réagi d'une manière un peu menaçante, en disant si on revient au pouvoir, son ticket d'entrée sera son ticket de sortie. Voilà, c'est ce qui a été dit. Et puis d'autres, eux, ont dit oui, mais finalement, on assume ce qu'on a fait, on assume comment on était. Et puis voilà, le monde est comme ça. Le monde est comme ça. Donc voilà, Joseph Massescaron, c'est un esthète. C'est un esthète, mais il faudrait qu'il revienne au principe de réalité. Le principe de réalité, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la concurrence, c'est le darwinisme social, c'est une lutte permanente pour le pouvoir. C'est cela. Mais je crains que ce soit eux. Je pense que ce sont eux qui sont en dehors du principe de réalité.
Mais est-ce que le principe de réalité ne se complète pas aussi dans le cadre de la littérature par le mentir vrai, comme disait Aragon, qui est que la littérature de fiction, le romanesque, dit finalement beaucoup plus la vérité?
Ah mais bien sûr, bien sûr, j'abonde dans ce sens tout à fait. Nous connaissons beaucoup mieux aujourd'hui la société de la Restauration par le député Darcy de Balzac que par tous les essais de Fustel de Coulanges. Nous connaissons mieux la société de la Restauration par Lucien Leven de Stendhal que nous ne le connaissons par les écrits de Renan. Bien sûr, vous avez raison. Bien sûr, tout à fait. La fiction est plus vraie que ne l'est la réalité. Bien sûr.
Est-ce qu'en écrivant ce livre ou en entendant les réactions qu'il suscite, vous avez mieux compris ce que vous avez vécu dans la période qui coïncide à ce que vous racontez pour votre personnage de Benjamin Strada ?
Oui, je me suis rendu compte que les personnes n'avaient rien appris. Voilà, rien n'avait été, enfin que les personnes n'avaient tiré aucune leçon de cette période et étaient vraiment pour ce milieu, hein, qui est un milieu que je décris, qui est un micro-milieu gay, qui n'est pas la communauté gay dans son ensemble, mais un micro-milieu gay, ou qui est un micro-milieu social, c'est un milieu quand même qui a été extrêmement favorisé par Nicolas Sarkozy. Pour eux, non, ils sont prêts tout à fait à recommencer et à resigner une seconde fois pour 2012.
Est-ce que vous ne donnez pas, et ce sera ma dernière question avant de recommander vraiment la lecture de votre roman à nos auditeurs, est-ce que vous ne donnez pas aussi une définition de ce qu'est le roman dans la dernière phrase de votre livre en disant que c'est raconter une fable dite par un idiot ?
Voilà, ben oui, parce que c'est le père de tous les romans, c'est-à-dire qu'il y a plus de romans... Il y a cette phrase de Shakespeare, It's a tale told by an idiot full of sun and fury, signifying nothing. C'est une fable dite par un idiot qui n'a aucune signification. Je crois que, bien sûr, c'est ça le roman. Le roman contemporain doit rester fidèle, en tout cas, à cette ligne. De grands ancêtres, Faulkner ou d'autres, l'ont suivi modestement. C'est ce que j'ai essayé de suivre. J'ai essayé de suivre leurs pas. Mais ils ont des enjambées de géants, donc c'était très difficile pour moi. Voilà, donc j'ai dû mettre des grosses bottes, des bottes de 7 lieues, et voilà. Ces bottes de 7 lieues, c'est l'humour.
Voilà. Très bien, et bien Joseph Massé-Escaron, je vous remercie pour cet entretien. Et puis pour ce roman, Ticket d'entrée, j'en rappelle le titre, paru chez Grasset, c'est un roman roboratif, drôle, ironique, et puis qui nous dit plein de choses sur le monde dans lequel nous vivons. Merci Joseph Massé-Escaron.
Merci.